Bonjour tout le monde, 25 octobre 2019, bienvenue à Sortie de zone. Ici Mario Langlois, entouré de Jean-François Tremblay de la presse. Salut Jean-François.
Salut Mario.
Guillaume Lefrançois de la presse également. Allô
salut.
Guillaume.
Salut Mario.
Et Jérémy Filosa du 98.5. Salut Jérémy.
Salut les gars.
Défaite du Canadien hier contre les Sharks de San Jose. Question de se retremper dans l'ambiance. Écoutons les derniers mots de Martin McGuire à la fin du match hier.
Les Sharks ont mérité cette victoire. 4-2, ils l'emportent sur le Canadien de Montréal.
Match, écoute, frustrant pour tout le monde, le gardien du Canadien et toute cette brigade défensive.
Match frustrant pour le Canadien et la brigade défensive pour l'unité de désavantage numérique. Et les gars, après le match, moi, je suis allé rejoindre des gars, des amis d'une ligue de garage pour question de fraterniser après le match, parler du match du Canadien puis leur match de ligue de garage. Et je disais à ceux qui me demandaient ça avait l'air de quoi ce soir le match, j'ai dit, ben ça avait l'air d'un match de ligue de garage. Hormis les habiletés individuelles de tout le monde, mais l'exécution était minable hier. Combien de passes dans les patins tentées dans les sorties de zone? Combien de dégagements refusés?
20.
C'était pas un grand cru. T'es-a compté, Guillaume?
14 en deuxième période.
Pour vrai, là. Ouais. Ben, les Sharks s'en foutaient parce qu'ils gagnaient probablement, ils gagnaient 7 mises en jeu sur 10.
Il y avait le beau jeu de...
Mais t'as pas trop trop nerveux, de prendre une mise en jeu dans le zone, hein?
Les Sharks de San Jose ont marqué les buts en désavantage numérique et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il y avait à faire, c'était comme au football, là, jouer le cadran.
Oui.
Donc, ralentir le jeu.
Faire des jeux au sol.
Jouer le cadran, faire des jeux faciles, lancer la rondelle en fond de zone, casser le rythme le plus possible, embourber la zone nerd. Puis à partir de ce moment-là, le jeu est devenu assez plate, assez soporifique, mais ils ont marqué les buts en désavantage numérique. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu l'expérience, qu'ils ont eu la clairvoyance de comprendre la situation. Puis à partir de ce moment-là, ils sont sauvés avec le match.
Qu'est-ce que tu as pensé du match, Jérémy?
Ben écoute, les Sharks ont profité aussi de plusieurs longs jeux. Hein. On voit que c'est quelque chose qu'ils aiment utiliser comme arme offensive. Écoute, j'ai pas trouvé que le Canadien a pas essayé dans ce match-là. 37 tirs au filet, puis à la fin, les gars, je sais pas si comme moi vous avez remarqué, mais dans les deux dernières minutes, le cadran était stické à 36 tirs. Je pense que le Canadien en a pris 5 ou 6, puis on en a seulement ajouté un. Donc, c'est pas parce que le Canadien a pas eu ses opportunités de marquer dans ce match-là. Ils en ont eu plusieurs, mais là, bon, vous venez d'en parler un tout petit peu, le désavantage numérique. Je sais qu'on va développer là-dessus au cours des prochaines minutes, mais écoute, Claude Julien, il allait avec une stratégie différente. Il avait réuni ses 6 meilleurs attaquants sur ses deux premières lignes, qui est pas une mauvaise stratégie à domicile parce que tu peux choisir quand envoyer tes troisième et quatrième trios qui sont un peu plus faibles, mais je pense pas qu'on va utiliser cette formule-là sur la route parce que t'affaiblis tellement tes troisième et quatrième lignes que quand t'as pas le deuxième changement, là, tu deviens vraiment vulnérable.
Le Canadien joue pour 500 actuellement, 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. Et il faut faire beaucoup mieux que ça si tu veux aspirer ou espérer de la lutte aux séries. Et c'est pour ça que Claude Julien, il a parlé de frustration hier. On va écouter un extrait, en fait, sur le même sujet en deux temps, hier après le match, dans un premier temps.
Je sais que je vais gérer ça demain. Puis, vraiment l'intention de gérer ça. Écoute, les tâches sont manquées. Et puis, aucune raison. C'est plus ou moins le même groupe de joueurs que l'an passé avait fait du bon travail. Toujours la même chose. On manque à nos tâches. Et puis, ça finit le fond du filet.
Ça, c'est après le match. Jean-François, tu étais là hier. Tu sentais-tu la frustration chez Claude Julien?
Disons que oui. Claude a été sans équivoque dans son analyse du match. À deux reprises, il a vraiment... planter son désavantage numérique. Avec raison, 30e dans la Ligue, seulement les Jets de Winnipeg qui font pire. Il y a eu une phrase qui était très intéressante à un moment donné où il a dit...
Les doubles échecs?
Les doubles échecs.
Ouais, vas-y, trop occupé,
On était trop occupé à donner des doubles échecs devant le filet pour chercher la rondelle.
S'il dit en conférence de presse, c'est parce qu'il l'avait déjà dit aux joueurs en question, que ce soit Chiarot ou Weber ou peu importe qui, c'est sûr que ce message-là avait déjà été dit.
C'est tout un tout l'autre. Ou on est hypnotisé par la rondelle ou personne ne s'occupe de la rondelle.
Mais tu sais, il y a une façon dans son message, dans sa frustration, que tu sens que c'est pas la première fois qu'il dit ça, que c'est pas la première fois qu'il souligne que ça, c'est un problème, puis que là, il arrive, puis il voit que c'est encore, tu sais, que ce problème-là est encore présent et pas encore réglé.
Mais dans le cas de Sherratt, là, il joue-tu homme à homme, lui, en désavantage numérique? C'est quoi l'affaire? Sur les deux buts de Kane en avantage numérique, il est pris sur le côté du filet, puis il joue homme à homme. Je veux dire, tu peux pas jouer homme à homme à des avantages numériques. Il va en manquer un homme en quelque part. C'est sûr que t'en as un de moins. Faudrait que quelqu'un lui dise.
Tu dis qu'il va manquer un homme en quelque part. Et dans la comparaison, là, parce que lui, il remplace puis il porte le même numéro que Jordy Benn. Et Jordy Benn, en désavantage numérique, était plus efficace que ne l'est actuellement dans ce jeune début de saison de Sherratt. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là.
Corrigez-moi si j'ai tort, là, mais le désavantage numérique, donc l'avantage numérique, a deux solutions qui fonctionnent généralement bien. D'abord, c'est la passe. La passe transversale est la plus létale, je dirais, la plus dangereuse. Quand elle est bien faite au cercle, c'est là que tu peux avoir le tir sur réception qui est le plus dangereux. Sauf que les avantages numériques se poursuivent grâce à la récupération de rondelles devant le filet. Une fois que le gardien a fait l'arrêt, une fois que ça a été bloqué en défense par la mêlée devant le filet, faut que l'équipe qui est en avantage numérique soit capable de récupérer la rondelle. Alors, à ce moment-là, c'est là, je pense, que Ben Chariot essayait à tout le moins de faire son travail. C'est que tu dois t'assurer que l'équipe devant le filet
ne saisisse pas le retour.
Ne saisisse jamais le retour. Sauf que Ben Chariot était rendu obsédé par cette facette de son travail, donnait des coups de bâton à qui mieux, et voyait carrément plus la rondelle hier. Mais ceci dit, Chariot n'est pas le pire. Chariot est un des bons défenseurs du Canadien en désavantage numérique cette saison pour les buts accordés quand il est sur la glace. C'est un des meilleurs défenseurs de l'équipe.
Et tu t'appuies sur... tu t'appuies sur des stats ou sur ce que tu vois?
Chariot, 5 buts marqués pendant qu'il était en désavantage numérique en 25 minutes de jeu. C'est mieux. Donc, ça fait 11,6 buts accordés par 60 minutes de jeu.
Okay.
C'est un peu technique, mais ça reste mieux que Petrie, c'est mieux que Weber et c'est mieux que plusieurs attaquants du Canadien. Alors, il n'est pas le pire en désavantage numérique.
Okay. Il y a une affaire que peut-être certaines stats disent, puis je ne conteste pas celle que tu nous soumets là, c'est fort intéressant. C'est que, tu sais, des fois, t'es cop des stats d'un mauvais jeu de l'autre, tu sais. Puis j'aimerais ça que la stat me dise, OK, t'es juste là dans tant de pourcentage, mais à chaque fois que t'es impliqué, tu commets la faute.
C'est sûr que les statistiques vont toujours
puis
être...
Je dis pas que c'est le cas, là, mais...
Non, c'est ça, mais je pense que les statistiques, particulièrement au hockey, contrairement même au baseball, où chaque séquence, où la plupart des séquences sont morcelées, sont en action individuelle, au hockey, il y a pas beaucoup de ça. Donc, je pense que...
L'évaluation personnelle...
C'est vrai, non, ben c'est ça, puis tu sais, c'est un raisonnement qui est vrai pour bien des stats au hockey. Une statistique au hockey, ça exprime pas seulement ce qu'est le joueur, mais ça exprime également son entourage. Donc là, dans ce cas-là, disons que ce que nos yeux nous disent, c'est que Ben Chariot n'a pas un grand début de saison, tout ça. D'un autre côté, les statistiques disent autre chose. Alors là, ça va être à voir. En même temps, souvent, si les statistiques disent une chose et que les yeux disent autre chose, ben des fois, la réalité finit par rattraper. Puis c'est une des deux réalités finalement qui prend le dessus. C'est-à-dire soit que Ben Chariot va devenir aussi bon que ce que ses statistiques disent, ou soit que les statistiques de Ben Chariot vont se mettre à dégringoler.
Il reste que là, le Canadien vient de subir deux défaites de suite et contre Toronto à domicile demain. T'es en danger d'en subir 3 de suite et de glisser sous la barre des 500.
Surtout avec un désavantage qui fonctionne pas.
Contre Matthews et compagnie, là. C'est pas... Quoique, les gars, pouvez-vous y croire? T'sais, on peut critiquer et évaluer bien des facettes du jeu du Canadien en ce moment. C'est pas parfait après 10 matchs. Mais hors du portrait des séries au moment où l'on se parle, le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto.
C'est encore très serré.
Non, je le sais, c'est un faible échantillon.
Il y a beaucoup d'équipes dans un même
temps. Si on lève les drapeaux jaunes... Tu sais, parce qu'on est en train
de
Montréal.
Là-bas, doivent avoir le même genre de discussion qu'on a ici.
C'est sûr.
C'est-à-dire que le début de saison est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend. Je pense pas que ce soit basé sur les mêmes, je pense pas que ce soit les mêmes inquiétudes, disons, à Toronto, là. Je pense qu'ils sont pas trop inquiets quant aux capacités générales de l'équipe de
même chez les Sharks. Hier matin, là, on est à l'entraînement des Sharks, puis ils ont pas un gros début de saison, mais il y avait personne qui semblait vraiment inquiet de ce début de saison des Sharks. Lorsque j'ai parlé aux joueurs dans le vestiaire et à l'entraîneur Pete DeBoer non plus, comparativement, disons, au Wild du Minnesota, qui connaît un mauvais début de saison, et tout de suite, dans le vestiaire, on sentait que là, est-ce qu'on allait éventuellement voir la lumière au bout du tunnel? Donc, c'est différent pour un peu tout le monde, là, je présume, dépendant des équipes, et ce qu'ils ont dans leur vestiaire aussi. Là.
En même temps, c'est sûr que pour les Sharks, eux, ils arrivaient aussi d'une séance de lavage de linge sale en famille qui avait été l'après-match précédent.
C'est une couple de fois que ça arrive. Le Minnesota n'a pas vécu la même affaire avant de jouer avec le Canadien.
Exact.
Avez-vous remarqué au fil des ans combien de séquences positives sont amorcées ici à Montréal par des équipes qui sont sur la route? C'est une idée que je me fais ou... Parce que les Sharks disaient avant le match, c'est ici que c'était replacé l'an passé.
Mm-hmm. Oh, oui,
puis il me semble que je constate ça souvent.
Soit non, que ça se replace
j'ai pas
ici.
De stats pour l'appuyer, de stats avancées,
moi,
les gars.
Moi, j'ai le souvenir des Flames de Calgary d'il y a peut-être 3 ans, qui, eux, savaient, ils avaient touché le fond du baril ici à Montréal, et c'est en quittant Montréal que ça avait commencé. Glenn Gouloudzan, après le match, qui était l'entraîneur-chef des Flames.
Les temps ont changé.
Oui, exact. Et puis, il avait savonné son équipe après le match. Ça avait été, personnellement, un des points de presse d'après-match les plus rigolos auxquels j'avais assisté.
Ah, oui.
On n'était pas loin du Michel Therrien à Pittsburgh en 2005. Mais dans son cas, c'était qu'il
critiquait. Mais lui, il cassait des bâtons souvent sur la glace.
La ligne dont je me souviens le plus, c'est qu'il disait tout le monde fait des présences trop longues, nos attaquants font des présences trop longues, même notre quatrième trio, ils font une présence, ça va pas. Puis là, ils se sont dit bon, ben on va rester sur la glace parce qu'on marque tellement de buts de toute façon.
Il l'a dit en français comme ça, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Et il se moquait de la tournure des événements.
Mais c'est ça. Puis après ça, je me souviens bien, il prenait le train ensuite vers Ottawa pour aller jouer contre les Sénateurs. Puis il semble-t-il que dans le train, ça s'est parlé. Et puis après ça, ben, les Flames ont quand même une bonne fin de saison. Donc eux avaient touché le fond du baril à Montréal.
Parmi les propos qui ont retenu mon attention aujourd'hui sur la frustration, pas juste la frustration, mais certains gars qui te déçoivent, qui jouent en dessous des attentes, Claude Julien reconnaît que Kotkaniemi n'a pas le début de saison qu'on anticipait, là, puis je pense qu'il parle en son nom, je parle pas des attentes des partisans, mais il dit du même souffle, sauf que vous vous attardez beaucoup plus à ce qui va pas avec nos joueurs recrues qu'avec nos joueurs vétérans. C'est une autre façon pour Claude Julien d'y aller d'un message. Il pense à qui? J'ai ma petite idée, mais je suis curieux de vous entendre. Bon, Lekkonen, c'est le gars qui a le plus grand bouclier anti-critique depuis qu'il est à Montréal. Puis c'est pas de m'acharner sur lui, mais m'a dire une affaire, il y a un paquet de joueurs qui ont jamais eu la moitié de la marge de manœuvre que ce gars-là a.
Mais
je peux pas mentionner d'autres.
Mais souvent, ce qui arrive, c'est quand un joueur joue bien défensivement, on dirait que on critique pas les attaquants qui marquent pas. Mais on les critique, par contre, s'ils se replient pas. On les critique s'ils aident pas la défensive. On critique aussi si leur différentiel est en dessous de zéro. Mais le gars peut finir l'année avec 3 buts, puis c'est rare qu'on critique ces gars-là. On se dit, au moins, il joue bien défensivement. Au moins, il back-check.
Il coûte pas de buts. Pour Claude Julien, c'est effectivement...
C'est précieux. Et pour tous les clubs, j'imagine. Sauf qu'il pense à qui quand il dit ça? Je dis pas qu'il pense à Lekkonen, mais quand il nous dit « Hey, attardez-vous au jeu des vétérans qui sont en dessous des attentes également, et pas rien que les recrues qui livrent pas en marchandises, vous pensez à qui, les gars? »
Ben, regarde, c'est sûr que hier, Kotkaniemi a pas eu le meilleur match. A d'ailleurs pas été beaucoup utilisé par Claude Julien à peu près 11 minutes 09.
Bon, 14 présents sur la glace.
Donc, il a pas été utilisé beaucoup. Sauf que, faut regarder aussi ses partenaires de trio hier, Lekkonen et Paul Byron. Lekkonen est un trou noir offensif. Paul Byron connaît un début de saison absolument catastrophique. J'enlève rien sur le travail des deux joueurs.
11-25, hier, pas bien plus que Kotkaniemi.
Non, exact. Et un début de saison très difficile. Alors, on s'est attardé peut-être sur Kotkaniemi, qui, à mon avis, n'a pas eu un match exceptionnel, mais il n'a pas eu un si vilain match que ça non plus. Il y a eu une bonne première période. Il y a eu une très, très grosse mise en échec sur Melker Carlson dans le match qui a changé le rythme, qui a montré aussi un autre visage de Kotkaniemi. Mais hier, si vous voulez, tu parles des vétérans, Mario, là, à mon avis, Byron et Lekkonen sont beaucoup
en
plus
tête de liste
à blâmer que Kotkaniemi pour hier, en tout cas.
Je sais pas si on peut déjà appeler Lekkonen un vétéran, mais si on compare par exemple au match qu'on a joué à Saint-Louis la semaine dernière, souvenez-vous, il y avait deux matchs en deux jours, il y avait aucun attaquant qui avait joué plus de 17 minutes, je crois. C'était balancé entre 14, 15, 16 et 17 minutes. Hier, étant donné qu'on a réaménagé les trios, on a plus fait jouer les deux premiers, Drouin plus de 20 minutes, je crois, Domi aussi. Donc, ben écoute, on se retrouve avec ce résultat-là, malheureusement.
Moi, si on parle des vétérans qui pouvaient être pointés par Claude, et, bon, effectivement, je pense, Lekkonen puis Byron, en plus, il y a deux choses que Claude a mentionné, qui a évoqué quelques fois dans ses points de presse. C'est le nombre de fois où le Canadien manque la cible sur des chances de marquer dans l'enclave.
Il est plus capable,
ces deux-là, on sait que c'est arrivé quelques fois. Donc, c'est sûr qu'il y avait ça en tête. Je pense, on en a parlé tantôt, je pense que Ben Chiarot n'a pas nécessairement un début à la hauteur des attentes. Puis, un qui me laisse un petit peu sur ma faim, mais pas... C'est pas catastrophique son début, mais je le trouve pas aussi bon que l'an passé, mais c'est Tomáš Tatar.
Clairement.
Tout à fait d'accord.
Clairement. De ce trio-là, là, je veux dire.
Moins affamé ce qui s'est assis sur son succès de l'an passé? Parce que il est revenu avec en tête de profiter. Non, mais des fois, c'est intangible. Je dis pas que c'est sa volonté. Le gars veut bien faire que l'an passé. Mais on le sait, les gars, combien de fois qu'on voit un club qui se pense plus fort que l'autre, donner un effort qui est en deçà de ce qu'il fallait, puis perdre un match. Fait que je pense que c'est vrai pour les individus, là. On le constate. Tatar est arrivé l'an passé, était un peu insulté d'avoir été presque largué, là, après la transaction à Vegas.
Ça,
puis finalement, c'était devenu une valeur quelconque. Puis, il est arrivé, il y avait des choses à prouver. Il fallait qu'il retrouve sa dignité, là, d'efficacité de joueur de hockey. Et il est pas là. Il est pas à ce niveau-là cette année. Est-ce que c'est juste l'aspect hungry, l'aspect moins affamé, moins incisif sur la rondelle?
Sont là, c'est 7 points en 10 matchs, ils se dirigent sur un rythme comparable à celui de l'an dernier, mais il y a des petites choses à gauche, à droite.
Les pénalités, entre autres. C'était un gros problème cette année là, pour Tomáš Tatar.
Incroyable. Surtout que cette année, on ne peut pas en prendre de pénalités aussi. Parce que le Canadien paye le prix. Ah, les gars, la séquence, dites-moi, là, c'est juste pour s'amuser un peu, puis après ça, je vais vous parler des lancers ratés. Quand vous avez vu le jeu où tout le monde, la foule a commencé à réagir alors que Weber est en train de craquer. Pour se lancer, et Mété est arrivé sur le fly et a saisi la rondelle. Est-ce que c'était le bon jeu, juste pour le plaisir de la conversation?
Ben, Mété, sur la séquence, a eu un tir qui n'était pas vilain, là, qui a raté.
Ouais, t'as raison.
C'est un tir qui n'était pas vilain. Puis là, il s'est développé un instinct de marqueur, alors laissons-le vivre avec son moment.
Ben, il y a 3 lancers ratés hier, Mété. Mais hier, c'était peut-être une des bonnes chances ou quasi chance de marquer s'il met sur le filet.
Il y a eu un bon tir au filet qui a été dévié par, je pense, Gallagher juste devant le filet, qui avait été très intéressant aussi.
Oui, exact.
Tu sais, c'est 14 tirs.
Placer la rondelle au filet, c'est jamais une mauvaise décision, Mario.
Ouais, non, c'est sûr. Puis tu l'as vu, juste pour compléter la stat, Jérémy, je t'écoute ensuite, les lancers puis les nuances là, en dessous des statistiques, c'est-à-dire 23 lancers pour les Sharks, 13 lancés qui ont été bloqués et 9 qui ont raté la cible. Chez le Canadien, on a lancé 37 fois, 17 ont été bloqués et 14 ont raté la cible. Alors, oui, on était en position de lancer plus souvent, mais moi, la qualité des lancers... Tu parlais de la qualité des lancers, Jérémy, tout à l'heure. Moi, j'ai pas vu beaucoup de chances de marquer chez le Canadien. Je sais pas si vous en avez vu. Puis j'ai trouvé que c'était un match de Ligue de garage somnifère un peu. Vous avez vu des grosses chances de marquer en quantité?
Ben, tu sais, Cousins, à un moment donné, un avantage numérique, je pense qu'il cogne 5 fois à la porte.
Mais si la rondelle est en dessous des pads, quand même, qui donne 4 coups de cheveux.
C'était quand même une chance de marquer.
En fin de match, le Canadien a eu plusieurs bonnes chances. De toute façon, il n'aurait pas gagné ce match-là. C'était 4-2. Mais moi, j'ai trouvé que dans les deux dernières minutes, ils ont beaucoup bourdonné. Mais bon, malheureusement, il était déjà tard. Il y a eu Jonathan Drouin qui a eu une bonne chance.
Quand il a contourné le filet, là?
Exact. Il monte la patinoire, contourne le filet. Il a eu quand même un bon tir. Mais juste pour revenir sur Paul Byron, tout à l'heure, j'ai lu le texte de votre collègue Richard Labbé concernant la possible corrélation entre le fait que Byron ne produit plus et ce fameux combat qu'il avait perdu contre Mackenzie Weegar à la fin de la dernière saison, vous en souvenez.
Oui.
Il avait même manqué un match, si je me trompe pas, pour une possible commotion cérébrale. Et depuis ce temps-là, il est vraiment... il n'est plus là. Il n'est plus l'ombre de lui-même. Je sais pas s'il y a un lien à faire entre les deux, mais on se souvient que...
Si t'en parles, tu penses-tu qu'il y en a un, toi? T'es-tu tenté de penser que c'est... Moi, je pense pas, là, mais toi...
Je pense pas parce qu'il s'est passé tout un été. Mais écoute, il avait mangé toute une raclée, là. On s'en souvient. Faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il a pas joué le match suivant ou les deux matchs suivants.
Mais l'accumulation des blessures, je pense, c'est GF dans un texte cette semaine qui en parlait. C'est aussi ça. C'est qu'il y a eu une accumulation de blessures.
À chaque partie du corps, Paul Byron a été blessé. Le haut, le bas, les poignets, l'avant-bras. Je veux dire, Paul Byron est un paratonnerre à blessure. Alors, c'est sûr que ça aide jamais à avoir une commotion cérébrale. Je veux dire, on va pas se mentir, ça aide jamais à avoir une commotion cérébrale, c'est sûr et certain. Et puis il y a des implications possiblement à long terme dans une carrière aussi qui sont liées à ça. Mais Paul Byron est un joueur de petit gabarit qui est explosif, qui a pas peur d'aller dans le trafic, et c'est un joueur qui a été blessé plus souvent qu'à son tour. Et à mon sens, ce qui lui manque cette année, c'est vraiment cette explosion-là, cette hargne, cette aller dans le trafic, ce qu'il faisait avec beaucoup de liberté par le passé, qui fait beaucoup moins cette année. Alors moi, je m'intéresserais beaucoup plus à... Sans dire que Richard est complètement à côté de la plaque, pas du tout, mais son explosion m'inquiète beaucoup plus cette année.
Moi, c'est ce que j'ai dit, je pense, à notre dernier podcast, où je sais plus si je l'ai dit aux amateurs de sport, mais clairement, vous souvenez-vous, puis c'est difficile, là, j'ai pas les séquences, deux ou trois fois l'an passé, là, bien avant cette bagarre-là, là, il a quitté le match. Et à toutes les fois qu'il quittait, c'est après avoir tenté une accélération. Fait que moi, je trouve que ça sent une blessure récurrente à l'aine ou dans ce coin-là, parce qu'il semble que c'est quand il tente d'atteindre sa grande vitesse qu'il y a de quoi qui se brisait sa chaîne.
Puis s'il lui manque ça,
ben, c'est plus le même joueur.
C'est son père. C'est exact. Il va pas se rendre utile. C'est pas avec son gabarit qu'il va se rendre utile s'il réussit pas à avancer comme
beaucoup
comme
de leadership, ça se dit. C'est une présence importante.
On l'a payé cher, son leadership. J'ai hâte de voir.
Mais à partir de cette année que le Canadien paye.
Longtemps. Il paye pas si cher que ça, mais il paye longtemps.
Au total,
c'est beaucoup.
Il y en a un que j'aime, par contre, c'est Joel Armia. Oui. Écoute, encore hier, il revient de blessure. Je m'attendais peut-être à un petit ralentissement de sa part. Je l'ai trouvé très impliqué en zone offensive.
6 mises en échec, là, Jérémy. C'est lui qui a fait le plus chez les Canadiens.
Ouais. Il a marqué un but, un beau but, une belle déviation. Et pour moi, Joel Armia, c'est une des belles révélations de cette saison. L'année passée, il a été beaucoup blessé. Mais écoute, je me souviens qu'au début, il me faisait un peu penser à Lars Eller quand il est arrivé. Mais écoute, je le trouve beaucoup meilleur. Meilleur que Lars Eller. Puis ce gars-là a beaucoup de potentiel.
Les stats appuient ce que ton œil t'a révélé, Jérémy, parce que,
je pense que oui.
Il y a 6 mises en échec, il y a 4 lancés.
Il a bloqué
3 tirs, il a raté la cible 2 fois.
C'est ça,
il a créé 2 revirements favorables aux Canadiens. Voilà. Il n'a pas perdu la rondelle. C'est pas parfait, là. Oui, il a manqué le filet, effectivement.
Sur la quantité, d'actions offensives de Joel Armia il y a un bilan positif pour le match d'hier.
De façon générale, moi, Armia, ça a toujours été un joueur depuis qu'il est arrivé à Montréal que j'aime beaucoup, parce qu'il apporte des choses que personne d'autre apporte. C'est-à-dire que il a le meilleur gabarit de tous les attaquants de cette équipe-là.
Oh, okay.
Puis il s'en sert bien pour protéger la rondelle. Puis en plus de ça, il y a des super bonnes mains. Donc ça fait en sorte qu'il apporte beaucoup de choses qui manquent à ce groupe d'attaquants-là.
As-tu senti, Jean-François, t'étais, et Jérémy aussi, t'as fait le vestiaire hier, mais avez-vous senti que Carey, qui a bien répondu, était frustré? Parce qu'on l'a vu exprimer une certaine impatience ou une certaine insatisfaction, peut-être envers lui-même à un moment donné, après un but. Avez-vous senti ça chez Carey?
Il y a eu un moment particulièrement impatient, c'est après avoir raté un dégagement en désavantage numérique en troisième période, où il a frappé la rondelle de son bâton très fort. Alors, j'ai quand même senti un niveau de frustration avec Carey Price hier. C'était pas son meilleur match. Il était déporté, il était moins agressif. Il avait accordé 4 buts sur 14 tirs, je pense, là, à moins que je fasse erreur.
T'es en pleine dedans. Il y a de la misère contre San Jose. L'an passé, il n'avait pas fini le match, un des matchs qu'il a joué contre San Jose.
C'est vrai, tout à fait. Ça a été, on en a parlé longtemps.
4 à 14 après
4 à 14. Et sur le quatrième but, il y avait un drôle de style qui rappelait Ron Tognott, là. les belles années où tu gardais les buts un peu.
Mais parlant de gardien de but, puis je voulais un peu mettre à la table, les gars, puis c'est pas une question sur Carey Price. Je vais y aller de façon plus globale. J'amène ça comme ça, là. Croyez-vous que le pourcentage d'efficacité d'un gardien de but soit le reflet de la qualité de ce qui se passe en avant de lui défensivement, de la structure défensive, ou c'est tout simplement le reflet de son niveau de jeu là depuis le début de la saison? Et là, je vais vous parler de plusieurs gardiens de but. Et prenez Bobrovsky, est à 8,69. Carter Hart, Philadelphia, à 8,90. Corey Crawford est à 8,91. Price est à 903, à peine au-dessus de 900. Et toutes ces équipes-là jouent pour 500 au mieux, c'est le cas du Canadien, ou en bas de 500. Par contre, il y a des exemples où on voit que c'est pas une condition sine qua non pour du succès. puisque il y a des équipes qui ont des quand même des bons débuts de saison, mais avec des gardiens qui ont des stats très ordinaires. Corpy Salo est à 901 et s'en tire pas mal. Il y a déjà 5 victoires avec Columbus. Anderson à Toronto. Toronto est exclu du portrait des séries, mais il y a quand même 5 victoires à 901. Old Beat à 8,86. Il a perdu hier à Edmonton. Mais Razek est à 8,88. Il a 4 victoires, une défaite en prolongation. Alors les gars, je vous relance la question. Le pourcentage d'efficacité, ça vous dit-tu comment on joue en avant du gardien ou ça vous dit comment le gardien joue?
Pour reprendre un peu ce que je disais tantôt, je pense que comme ben plusieurs autres statistiques, ça démontre à la fois le joueur et son entourage. Là, je pense pas que, disons que la façon que la défense, dont la défense du Canadien joue, de la façon dont l'infériorité joue, je pense pas qu'il y a beaucoup de gardiens qui auraient une efficacité de 920 avec ce club-là en ce moment. Cela dit.
Et beaucoup de buts accordant des avantages numériques. Ben, c'est sûr que ça plombe les chiffres de Carey Price.
Ça plombe les chiffres. Donc ça, c'est une chose. Par contre, d'un autre côté, on dit souvent que le gardien doit être le meilleur joueur en désavantages numériques. Et qu'un joueur de concession de la trempe de Carey Price, s'il est payé les gros dollars, c'est aussi pour passer la mop derrière, tu sais, pour corriger les erreurs des autres, réparer les erreurs des autres. Puis c'est d'ailleurs une chose, quand Carey Price va bien, s'il y a une chose qu'on entend souvent dans les commentaires des joueurs, c'est de dire on n'a pas peur de faire d'erreurs parce qu'on sait que lui est en arrière. Mm-hmm. On sait que lui, si jamais on fait de quoi, on sait qu'il va être là en arrière pour réparer les erreurs. Et puis là, ben ça arrive pas en ce moment.
Ben quand on regarde le début de saison, les gars, écoute, juste hier là, vite là, je fais le tour des matchs d'hier soir dans la Ligue nationale, 4-2, 4-2, 6-2, 4-3, 5-2, 4-0, 4-1, 6-5, 4-3, tabarouette. Je veux dire, il s'en marque beaucoup de buts en début de saison. C'est la tendance depuis déjà à peu près 3 ou 4 années. Et après Noël, ben là, ça se resserre puis on voit des chiffres qui reviennent un petit peu plus à la normale. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, plus que jamais, c'est vraiment difficile de dire ah ben lui, ce gardien-là, c'est un gardien à 10 millions, il fait la différence dans un match. Pour moi, Carey Price, il a fait la différence dans un match, c'est le match à Toronto. C'est tout. Pour le reste, mais ce n'est plus aujourd'hui raisonnable de demander à ton gardien d'être le meilleur puis être celui qui fait la différence quand tu as une équipe devant toi qui défensivement en arrache. Je suis d'accord avec vous, on pourrait mettre n'importe quel autre gardien, je pense pas que ça ferait la différence non plus. Donc, c'est vraiment un penser du bien quand tu décides de donner 10 millions à ton gardien au lieu de 3 ou de 4, dépendant de qui t'as. Alors, regarde combien d'équipes présentement utilisent leur second. Le Canadien a vu plusieurs gardiens second depuis le début de la saison parce que les numéros 1 avaient des difficultés.
Ou parce qu'on sépare la charge de travail également, parce que tout le monde en est venu à la conclusion que si tu veux faire jouer ton numéro 1 75 matchs, c'est correct, mais trouve-toi un autre en série parce qu'il se rendra pas là, tu sais.
Puis l'autre chose aussi, c'est que je trouve que le Canadien voit autant de numéro 2, ça en dit peut-être un peu sur la perception des autres équipes.
C'est un excellent point, ça. Guillaume, Jean-François?
Pour revenir à ta question sur Carey Price, sur est-ce que c'est une performance du gardien ou une performance d'équipe, le pourcentage d'arrêt, j'ai toujours eu plus tendance à croire que c'était un indicateur assez honnête du travail du gardien de but, le nombre d'arrêts sur le nombre de tirs. Ça reste une statistique là, la plus basique qui soit. Là. Oui. Il y a rien d'avancé dans la statistique du pourcentage d'arrêt.
Ça donne
d'arrêt.
Pas beaucoup de nuances, mais
c'est la statistique la plus de base. Sauf que Carey Price est à 903 et j'ai pas été scandalisé par son travail cette année particulièrement. Comme je suis d'accord avec ce que Jérémy disait, il a pas été exceptionnel, puis c'est injuste aussi qu'on attende ça perpétuellement de Carey Price avec le Canadien de Montréal, mais j'ai pas vu de performance de Carey Price cette année aussi peu. Là, hier, il a pas été fabuleux, là, on est d'accord. Mais j'ai pas été scandalisé par son 903. Alors, ça me force à remettre en perspective un peu ce que je pensais.
Mais c'est pas, je pense pas que c'est d'être scandalisé, si on veut, par son niveau. Puis par scandalisé, on s'entend. On peut revenir au mois de novembre l'an passé, où là, il y avait de quoi être scandalisé par son niveau de jeu, parce que c'est vraiment, il coûtait des matchs aux Canadiens carrément. Oui. C'est pas le cas en ce moment, mais ça reste qu'à titre de meilleur salarié de l'équipe.
Mais il y avait un contexte pour ce salaire-là, Guillaume. On parle souvent du salaire de Carey Price, puis c'est vrai qu'il fait énormément d'argent. Au-dessus de 10 millions par année et beaucoup plus si on en argent réel pour les premières saisons. Mais il y avait un contexte à ce moment-là. Le Canadien n'avait pas le choix d'offrir cet argent-là à Carey Price. C'est pour ça que
il y a un contexte. Tu as toujours le choix. Je ne questionne pas ce choix-là.
Pas dans cette situation-là. Je ne pense pas que Marc Bergevin
avait le choix d'échanger Piqué-Souban. demande au public, tu sais, fait que je pense que t'as toujours le choix. Mais je respecte ton point de vue, là.
Ça aurait été, c'était Charlie Lindgren qui restait, qui avait dans le système à ce moment-là.
Non, s'il fallait qu'il laisse aller Carrie après tout ça, c'est sûr que la symbolique aurait été assez puissante, je comprends.
C'est pas dire que c'est un mauvais contrat, tu sais, c'est pas, je veux pas me lancer dans des positions si radicales que ça, mais simplement que quand t'as atteint ce statut-là dans ta carrière où t'es le meilleur salarié de ton équipe et un des meilleurs de la ligue, ben, ça vient généralement avec des attentes selon lesquelles tu rends tes coéquipiers meilleurs et tu finalement, quand tes coéquipiers sont pas à point, ben, toi, t'es là pour t'assurer que ça continue à fonctionner.
Donc, est-ce que Carey fait son travail selon toi en ce moment?
Il fait son travail, mais il fait le travail d'un gardien comme un autre en ce moment.
J'ai vu les gars.
Le travail d'un joueur de concession, disons.
Trois articles ce matin sur les médias sociaux, dont seulement un venait d'un média traditionnel, là, mais quand même sur des rumeurs de transactions de Carey Price. Non, mais écoute, la bombe,
Mais il n'y en a même pas de rumeurs. C'est parce que ça prend des clics dans la vie. Puis c'est sûr et certain que là, si tu veux des clics, là, ça va piquer la curiosité du monde. Mais c'est là que je dirais pas qu'il y a de la mauvaise foi, mais ça peut être quelqu'un qui dit ça de même. Je pense que ça a été dit dans une émission de fin de soirée à la télévision que on pourrait échanger Carey Price, puis là le lendemain il y a quelqu'un qui dit il y a une rumeur d'eux. Il n'y a pas de rumeur. Je vous dis oseriez-vous échanger Carey Price? Si quelqu'un écoute notre balado, parce que nous autres on veut un sujet de conversation. Comme je vous ai demandé l'autre jour, Gallagher, un Canadien en vie. Ouais. Là, si quelqu'un nous arrive le lendemain, puis là, je nommerai pas de site, là, qui récupère tout ce qu'on fait, là, puis qui vivent avec ça, puis qui vendent de la pub avec ça, mais qui disent, non, mais c'est ça pareil, là.
Non, mais tout ça pour dire que, écoutez.
Là, ils vont dire, Gallagher est échangé. Ben, voyons donc, tu sais.
Avec le salaire qu'il gagne, avec les années qui restent au contrat, avec la clause de non-échange, et le fait que cette année, le Canadien, il veut faire les séries éliminatoires.
Exactement, c'est exactement ça le point.
Ça ne fait aucun sens.
Non, tout à fait. Puis de toute façon, l'autre chose, c'est que. Là, on parle seulement des 8 premiers matchs de Price, là, c'est tout. Je veux dire, on peut revoir. Je suis sûr qu'on va revoir cette discussion-là dans 2 semaines. Carey Price est bien capable de jouer pour 960 dans les 2 prochaines semaines. Puis, donc, c'est pas. C'est simplement de souligner qu'il y a un départ peut-être pas aussi fracassant qu'on l'attendait.
Non.
Mais du reste, il a parfaitement la capacité de se replacer. Là.
Moi, je vais y aller de façon plus tranchante, les gars. Moi, je trouve que. Je me souviens pas d'avoir vu le Canadien aussi désorganisé dans son territoire défensif. Pour vrai, là, c'était. Écoute.
Il y a 2 ans. On dirait ça donnait pas sa place.
Ouais, merci. Il y avait Rinat Veliev.
Tu vois comment, malgré la devise sur nos licences, je me souviens, on a la faculté
d'oublier. Ouais, sauf que.
La saison.
Non, mais on se promène comme si. Honnêtement, on se promène comme dans un centre d'achat où il y a plusieurs locaux vides, puis qu'on peut gambader, puis faire pas mal ce qu'on veut, puis veut pas, ça finit par rattraper Carey Price. D'autre part, lui, au plan individuel, est-ce qu'il sera en mesure de corriger? Je pense que oui. Puis un pourcentage à 900 3, il a fait face à une qualité de chance de marquer que je qualifierais de supérieure la plupart du temps. Fait que je vais reprendre ton expression, je ne suis pas scandalisé, puis je ne suis pas après chaque match dire « Hey, Price nous a coûté un match ». Mais par contre, il me fait penser à un gars dont tu attends une production de 80 points qui a un lent départ. Tu sais, il est là, il ne coûte pas rien, mais tu aimerais ça qu'il en arrête une plus de temps en temps. Mais
je ramène le point que je pense que c'est Guillaume qui le faisait, c'est statistiques en désavantage numérique. Plombe sa fiche globale en ce moment.
Ben oui.
Alors, je veux pas non plus être le défenseur numéro 1 de Carey Price.
Quand on le dit, il n'y a pas de mal.
Claude Julien, ce matin, là, il s'est fait poser la question sur Carey Price.
Puis on passe à une autre question.
Voilà. Ouais. Pour l'instant, je pense que c'est probablement.
C'était la bonne réponse. T'allais dire, Jérémy.
Non, tout simplement, tu sais, pour ce qui est du désavantage numérique, là, ça fait 2 ans qu'on s'acharne sur l'avantage numérique qui a été pénible, là, parmi un des pires de la Ligue nationale. Cette année, c'est le désavantage numérique, mais souvenez-vous, à un moment donné, Claude Julien, on lui a posé la question sur l'avantage numérique, puis là, il dit, quand t'as été aussi mauvais pendant tellement longtemps, c'est très difficile de faire augmenter ton pourcentage plus tard dans l'année parce que le chiffre devient de plus en plus grand, donc le pourcentage qui augmente quand tu marques un but est de plus en plus petit. Mais c'est la même chose en désavantage numérique. On est 30e présentement. Je comprends qu'on est encore au mois d'octobre, mais à un moment donné, il va falloir que ça se règle, ce problème-là, parce que tu feras pas une série là, avec un désavantage numérique comme ça. C'est impossible. Ça peut pas arriver.
Mais l'autre affaire, c'est que le Canadien, vous avez vu... Il y a 2 choses qui me frappent. L'indice de divertissement est pas mal moins élevé que des matchs de début de saison, là. Parce que c'était pas un grand divertissement hier.
Exact.
Et le Canadien, dans ses défaites, tu sais, regardons les 10 premiers matchs, là. C'est-tu des clubs qui auraient dû battre ou pas dû battre? Ils perdent contre Caroline. Ils gagnent contre Toronto dans les circonstances dont on se souvient. Ils perdent contre Buffalo. Ils perdent contre Détroit. Ça, c'est pas acceptable. Ça te fait mal des défaites de même. Ils gagnent contre Saint-Louis, c'est un bonus. Ils gagnent deux fois contre Saint-Louis. Ils gagnent contre Minnesota. Ils perdent contre Tampa. Ils ont affronté des bonnes équipes.
Fait que la défaite contre le Wild, elle
ne sur la route, celle de dimanche.
Contre le Wild et contre les Red Wings.
Contre les Red Wings, ça, c'est des points, points échappés carrément.
Parce que c'est un club de milieu de classement, grosso modo. T'sais, on les voit là. Soit qu'ils sont 8e, soit qu'ils vont être 9e, 10e, 11e, on verra. Fait que dans le fond, ils ont de la misère contre les clubs en haut d'eux autres. Il faut que tu battes les clubs dans le milieu. Tu vas chercher une petite victoire, parfois, peut-être surprise en haut. T'en échappes une en bas contre Détroit, mais il faut qu'ils se maintiennent là, les gars. Là. Sinon, tu peux pas jouer pour 500 ben, ben longtemps que tu vas te faire larguer.
Non, tu peux pas jouer pour 500 si tu perds des matchs comme Détroit et Minnesota, que ça...
Tu peux pas les échapper trop
comme
trop
ça dans les 10 premiers, ça, c'est sûr que ça fait mal.
Je trouve que ça s'équivaut un peu. Là. On s'attendait pas mal à un début de saison à peu près à 500. C'est juste qu'on n'a pas battu les équipes qu'on pensait que le Canadien allait battre. Et par contre, ils ont gagné des matchs qu'on s'attendait à ce qu'ils perdent. Là.
Claude Julien, on lui a demandé en conférence de presse quels sont les trucs qui t'inquiètent après 10 matchs. Il a répondu à la Claude Julien, je suis pas dans mon bureau à réfléchir, à faire des bilans. Ben, il a nommé deux choses, le désavantage numérique et la fiche de 500. Donc,
et le désavantage numérique est directement lié au fait que le Canadien a une fiche de 500.
Donc, exact.
Parleriez-vous d'indiscipline pour expliquer la quantité de désavantages numériques où le Canadien s'appare de punitions comme les adversaires?
Trois punitions pour avoir trop de joueurs sur la patinoire.
Mais là, ça, c'est réglé.
T'en as eu 3, t'en as eu 8 en zone offensive. T'as eu...
Zone offensive, c'est criminel. Ouais. Je veux dire, en termes de hockey, là, se faire prendre pour une pénalité en zone offensive sur de l'accrochage, sur avoir fait trébucher, c'est criminel. Hockey.
Et l'offensive paraît bien en ce moment quand tu regardes ça de façon globale, parce que le Canadien est l'équipe qui est au 10e rang pour ce qui est du nombre de buts marqués, mais défensivement, la stat des buts alloués est vraiment, vraiment pas bonne, pas ce que le Canadien doit avoir. Mais dans ces défaites, tu sais, quand tu marques 2 buts ou 1 but, t'as des bonnes chances de perdre. Donc, trouvez-vous que l'offensive, fait, on dit, le Canadien, la 10e attaque de la Ligue, très faible échantillon, on est au 8e de la saison. Trouvez-vous que l'offensive du Canadien, là, Lekkonen ne marque pas, Byron ne marque pas.
Avantage numérique fonctionne.
Mais aussitôt que l'avantage numérique ne produit pas un soir, t'es potentiellement dans le trouble. Parce que l'avantage numérique est venu dépanner le Canadien une couple de fois depuis le début de l'année. Ouais.
Ben, en fait, on pourrait dire, je pense que les deux unités fonctionnent à des tendances qui sont pas soutenables à long terme. Je pense pas que c'est soutenable que le désavantage fonctionne à 67%.
Ils vont avoir
un segment en désavantage numérique où ça va mieux aller, puis ça va s'équilibrer quelque peu.
Ouais.
Et puis d'un autre côté, l'avantage numérique va fort probablement ralentir éventuellement, même si, comme tu viens de le souligner, chez Weber, on n'a pas encore marqué.
Ça fiche
c'est en filet désert.
Ah oui, c'est vrai.
Un filet désert.
Donc, il n'y a pas marqué de
but encore. Il n'y a pas encore battu un gardien cette année.
Pas fonctionné encore.
Non, exact, elle n'a pas fonctionné. Ça en a un autre, on parlait des problèmes de précision tantôt, ça en a un autre aussi qui a ses problèmes avec ça, lui... cette année jusqu'ici chez Weber.
Il y en a 14 en 58 l'an passé, mais continue, Guillaume.
Oui, c'est ça. Non, ben j'allais dire, c'est un tir sur 3 de chez Weber rate la cible. Il y a 25 tirs au but, puis il y en a 13 qui sont hors cible. 13 autres qui sont hors cible. Donc ça c'est un certain problème. Jeff Petrie avait ce problème-là l'an passé. Il a corrigé le tir, permettez-moi le jeu de mots. mais bref, c'est un des problèmes de chez Weber en ce moment. Ça aussi, c'est une chose, si on se fie à sa tendance lourde de ses 12 premières saisons, c'est une tendance qui devrait se corriger. Donc, tu sais, au bout du compte, c'est fort possible que autant offensivement que défensivement, il y ait des ajustements avec les unités spéciales. Puis ben, après ça va être le jeu à 5 contre 5 qui...
On est tout proche de la fin, les gars, mais justement, tu parles du jeu à 5 contre 5, puis ça nous amène, on va repartir, on va finir là où on est parti. Si le Canadien corrige son unité des avantages numériques, est-ce que le Canadien est une équipe de série, à la lumière de ce que vous voyez là dans cet échantillon de début de saison? À 5 contre 5, c'est pas la catastrophe, mais...
Ça l'était pas l'an passé non plus.
Les gars, Jean-François, t'as l'air songeur, j'ai envie d'entendre ce qui se passe dans ta tête.
Le Canadien est une équipe sur la ligne là, de faire les séries et je pense que le Canadien n'a pas garde le même statut en ce moment. Le Canadien est encore sur la ligne de faire les séries. S'il améliore le désavantage numérique, il améliore ses chances d'être au-dessus de la ligne. Mais je pense pas que le Canadien est ailleurs que où on le voyait pour l'instant.
Dans le meilleur des scénarios, oui, Jérémy, enchaîne.
Ben écoute, moi je trouve qu'on est à une bonne transaction près d'être une équipe qui devrait se qualifier pour les séries. C'est ça qui est, que je trouve plate un peu, c'est qu'il n'y a jamais de mouvement dans la Ligue nationale tôt dans la saison. J'ai fait des statistiques, là, il y a eu 21 transactions dans les 5 dernières années au mois d'octobre. Ça, c'est une moyenne de 4. Puis croyez-moi, là, il n'y a pas de gros nom là-dedans. mais ce que je comprends pas, c'est est-ce que Marc Bergevin aimerait améliorer son équipe aujourd'hui? C'est sûr que oui.
Ben oui, il a essayé tout l'été.
Ben, et je suis certain qu'il y en a au moins 20-25 autres dans la Ligue qui sont dans la même position que lui, qui aimeraient s'améliorer. J'ai de la difficulté à comprendre qu'il n'y ait pas un fit, excusez l'expression, entre deux équipes de la Ligue nationale qui ont des besoins différents et qui ont des joueurs qui gagnent sensiblement le même montant et qui pourraient changer d'adresse assez facilement sans tout chambouler le plafond salarial et tout cela. Je trouve que les directeurs généraux sont timides. Sont timides en début de saison.
Sont pissous, tu veux dire?
Ben oui, sont pissous, tu sais. Ah, on veut pas... OK, ben on aurait besoin d'un ailier gauche, mais on va commencer de même.
Mais tu sais, Jérémy, quand tu t'accroches à l'avenir, est-ce qu'on peut pas... Tu sais, quand on peut pas prouver le contraire tant qu'on l'a pas vu, là, ben, ils s'accrochent tous à ça. Le meilleur est à venir. Les jeunes, on fait jouer jeunes. C'est le bouclier.
Ouais.
Hein, pourquoi compromettre ça? Pourquoi compromettre ta sécurité d'emploi à faire comme Kekalainen puis aller all-in? Non, ben, j'aimerais ça qu'il y en ait plus comme ça, mais ils sont tous un peu sur la défensive. JF, t'allais dire?
Marc Bergevin, les dernières saisons, en octobre, a fait des changements qui étaient très mineurs et qui étaient circonstanciels. Kulak, Olofsson, l'année d'avant, ouais. Kyle Bond, Nicolas Deslauriers. C'était des quick fix, là, pour prendre l'expression anglaise. Mais Zach Redman ne marchait pas, Martinson ne marchait pas. Mais regardez en novembre, Jérémy, regarde en novembre. Ouais. L'année passée, Nick Schmaltz contre Strome et Perlini, c'est une grosse transaction. C'était des transactions structurelles pour les deux équipes. L'année d'avant, la grosse transaction de Matt Duchesne, Kyle Turris, Samuel Girard. C'est
Échange à trois.
Donc, c'est novembre est généralement un terreau beaucoup plus fertile pour les transactions structurelles qui changent les équipes.
De toute façon, je pense que c'est normal aussi qu'il n'y ait rien en octobre parce que les DG ont identifié leurs problèmes probablement depuis le printemps précédent. Ils ont tout le printemps, le repêchage, l'été pour tenter de trouver des solutions. Après ça, une fois que tu as eu le camp d'entraînement puis le début de saison, ben là, c'est sûr que rendu là, c'est pas là que tu vas faire un changement. À la limite, ben tu vas regarder, voir ce que tu as sous les yeux, ce que tu as fait pendant l'été, ce que ça t'a apporté. Et des fois, tu vas découvrir des nouveaux besoins ou au contraire, il y a d'autres trucs que tu pensais qui étaient un besoin qui finalement n'en sont peut-être pas.
Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, les gars, vous avez peut-être lu la même affaire que moi. Là, j'ai lu ça, je sais pas si c'est hier ou je l'ai entendu en entrevue, puis dites-moi c'est qui l'a dit. Là, je ne sais plus, on consomme tellement d'informations à un moment donné que... Puis je trouve que ça a tellement de l'allure. C'est que dans la Ligue nationale... t'as 82 matchs de saison régulière. T'as une période de 10 matchs pour évaluer tes juniors. Là, le Canadien n'a pas de juniors cette année. Là, ils sont pas dans cette situation-là. Mais tu sais, c'est fait que la moitié de la Ligue est en train d'observer des joueurs, continue d'évaluer du talent. Et le DG en question, le dirigeant d'équipe, dit c'est après 30 matchs qu'on sait qu'est-ce qu'on a comme équipe. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un chiffre très, très pertinent et précis. Ça coïncide probablement avec fin novembre. On n'arrive pas loin des fêtes. Et on dit toujours qu'après les fêtes, le hockey change. Fait que moi, je pense qu'il y a encore espoir ou il y a encore de la possibilité qu'il y a du mouvement personnel chez le Canadien ou ailleurs. Mais je pense que le chiffre des 30, c'est pas mal proche de la réalité.
Entre la mi-novembre et la fin novembre, c'est le moment où là, on se rend compte, on voit les erreurs. Et l'année passée...
On est juste à 10, là, les gars.
Voilà, l'année passée, c'est le moment où Claude Julien a viré fou puis il a appelé Michael Chaput, Kenny Agostino. Il a changé complètement sa formation parce qu'il était
pas sur le quatrième trio.
Tout en novembre, ça, l'année passée. Alors, novembre, c'est le moment où on commence à faire les premiers changements.
Fais-tu un job avec le quatrième trio, Guillaume?
Quatrième trio en ce moment, absolument. Moi, la question que je me pose et la question que je suis sûr que le Canadien va se poser, puis particulièrement en novembre, si la saison change pas d'ici là, c'est le troisième trio. Le quatrième trio fonctionne super bien. On a trouvé Dano, on le sait, Dano Gallagher, ça bouge pas. Max Domi, ça va bien. Là, on essaie avec Drouin, mais dans tous les cas, il y a un deuxième trio qui est productif. Il y a un trou en ce moment dans le troisième trio. C'est Kotkaniemi qui est là au centre. Alors peut-être que ça va, quand je parle de qu'en début de saison, tu vois apparaître de nouveaux besoins. Est-ce que
le Conan Byron, tant que ces gars-là produisent
pas, avec ces alliés-là, ça marche là. Donc là, est-ce que Marc Bergevin va dire aïe aïe, OK, si on veut rentrer en série, ça nous prend un troisième centre. Il y a plein de futurs troisième centres dans cette équipe-là, il y a aucun doute là, que ce soit Pelling, Kotkaniemi, Suzuki va être même probablement au-dessus de ça, mais bref, t'as plusieurs potentiels, mais là cette année en ce moment même, est-ce que tu as un de ces joueurs-là qui peut jouer 15-16 minutes par match contre des bons trios des adversaires, t'en as peut-être pas. Est-ce que Est-ce que tu en veux un dès cette année pour participer aussi aux séries? Peut-être, c'est ça, ben où tu vas chercher un idéalement en dernière année de contrat, parce qu'après ça, on le sait tous, il y a de la congestion. Il va y avoir de la congestion au centre. Mais c'est ça, c'est le genre de truc que tu peux découvrir en cours de route, puis peut-être qu'à la mi-novembre, ça va être ça.
Deux petites prédictions en terminant, les gars. Tu peux compléter, Jérémy, mais je vais venir vers la conclusion. Je
m'ennuie des années 80 où, en plein camp d'entraînement, il pouvait arriver une transaction où les équipes avaient déjà identifié. Garde, on va avoir besoin d'un allié gauche, on appelle tel autre. Il n'y avait pas de plafond salarial dans le temps, qu'est-ce que vous voulez?
On a juste deux bagarreurs, il faut faire quelque chose.
Ouais, c'est ça! Exactement.
Et je nous amène vers la conclusion de notre balado d'aujourd'hui en vous demandant, donnez-moi une date de rappel pour Ryan Poehling.
Oh!
Dans le troisième, entre le troisième et la fin, le troisième quart et la fin novembre.
OK, OK. Guillaume?
11 novembre, jour du sommet.
11 novembre, le jour du soir. On va s'en souvenir, c'est sûr. Jérémy?
Moi, je vais y aller plus vers la fin du mois de novembre.
OK. Moi, je vais à la fin de la semaine prochaine si le Canadien est en bas de 500 pendant la prochaine semaine.
Oh.
À surveiller. Et je termine en vous demandant ceci. Est-ce que le Canadien, quand on va se retrouver après les matchs, les gars qu'ils vont disputer contre Toronto, Arizona, Vegas, Dallas, là, je vais loin, donc on va s'en reparler lundi. Mais les quatre prochains matchs, est-ce que le Canadien est en haut de 500, à 500 ou en bas? Guillaume?
5 points sur 8.
5 sur 8?
Oui.
Non, un peu en haut?
En bas.
En bas, Jérémy?
Ouais, pas mal à la même place.
Pas mal à la même place. Ça ressemble à une équipe de 500, les gars. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Toronto demain. J'ai bien hâte de voir ça. Puis on se retrouve lundi. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'était Sortie de Zone. Ciao.